Alors, c'est si vrai que...
Au risque d'être, je dirais, jugé comme je ne sais quoi.
C'est une première raison.
Donc c'est tout à fait important puisque...
Non, c'est pas tellement qu'on les connaisse mal.
Regards croisés. Un débat entre académiciens et personnalités. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Priscille Lafitte.
Dans notre série sur la politique économique et industrielle de la France, voici une intervention de Jean Droulers sur la sidérurgie française, son histoire difficile jusqu'aux années 80 et ses restructurations présentes avec le mariage récent d'Arcelor avec Mittal. Jean Droulers a été l'un des principaux acteurs de l'histoire de la sidérurgie en tant que dirigeant du groupe Wendel. On l'écoute.
L'acier, à l'origine de l'ère industrielle, n'en reste pas moins un matériau de base au siècle de la communication. L'implantation des usines sidérurgiques requiert un accès à des matières pondéreuses, minerais et charbon, avec des transports peu coûteux. Leurs puissantes installations nécessitent un financement important. L'histoire de la sidérurgie française répond à ces exigences. Et son évolution peut être schématisée en trois phases d'une durée très inégale. Des années, sinon des siècles, consacrées à la découverte, à la recherche scientifique, à la mise en œuvre des nouvelles techniques, ont abouti à la construction des aciéries, principalement sur le gisement de minerai de fer en Lorraine, dans le bassin de la Moselle et à Longwy, ainsi qu'à proximité des houillères du Nord, dans la région de Valenciennes et Maubeuge. Quelques unités isolées ont existé dans le centre et en Normandie. Basées sur des initiatives individuelles ou familiales, dans une économie libérale, les usines nombreuses, différentes malgré leur capacité et la diversité de leurs produits, s'y sont progressivement développés. Dès le XIXe siècle, la sidérurgie française a donné au pays les moyens nécessaires à son équipement. Elle n'a cessé de se moderniser, d'accroître sa capacité pour répondre aux besoins d'une économie dont le développement s'est accéléré au cours du XXe siècle jusqu'en 1939. Malgré la coupure de la guerre 14-18, et quelques crises cycliques. C'est la fin d'une époque. À nouveau la guerre, l'occupation, le séquestre et la libération. 1945 marque donc une nouvelle étape qui s'inscrit dans le cadre d'un État interventionniste. La reconstruction, le développement de la consommation liée à un accroissement du pouvoir d'achat, garantissent un haut niveau de production. Mais cette situation sera confrontée à l'intervention de plusieurs facteurs. D'abord, la technique a évolué. Les dimensions des équipements et leur capacité de production s'accroissent. Ils ont parfois du mal à s'insérer dans des usines devenues un peu trop étriquées. Cela va conduire à des rationalisations et à des fusions de sociétés. Puis en 1952, la création du marché commun du charbon et de l'acier, la CECA, à caractère supranational, va supprimer les frontières et modifier les règles de la concurrence. La nécessité d'être compétitif, de défendre ses parts de marché, conduit à des investissements parfois excessifs, notamment dû à un manque de coordination entre les sidérurgies européennes restées très nationales, avec des programmes un peu ambitieux. Les autorités du marché commun étaient davantage préoccupées par les règles de la concurrence. Enfin, la prise de conscience de l'épuisement progressif des gisements situés vers la fin du siècle, l'apparition des minerais importés, vont obliger la sidérurgie à se préparer à un effort d'investissement supplémentaire destinée à l'établissement des bases nouvelles qui prendront le relais des usines existantes. Ces minerais d'outre-mer, deux fois plus riches en fer, vont justifier, avec des frets maritimes très bas, l'implantation d'usines sidérurgiques sur des sites côtiers. Il en sera de même pour le charbon à coke, dont les besoins seront réduits de près des deux tiers. Ces facteurs produiront donc leurs effets dès 1948, année où Isinor résultera de la fusion des sociétés Denain-Anzin et Forge du Nord et de l'Est, avec pour but notamment d'installer un laminoir à grande capacité pour la production en continu des tôles minces. Appelé train à bande, il sera installé dans le cadre du plan Marshall. En 1953, à Longwy, les aciéries vont avec Sonel Maubeuge et Esco Emeuse, spécialistes des tubes en acier, former Lorraine-Esco. En Lorraine, les usines sidérurgiques du groupe Marine rejoignent celles de Pont-à-Mousson, dans Cidélor. Pendant que les sociétés UCPMI à Agondange et la métallurgique de Knutange créent la Moselle-Land de sidérurgie, SMS. Cette première vague de rationalisation n'était pas suffisante. En 1966, Usineur absorbera Lorraine-Esco, ce qui lui permettra de créer avec Vallourec une grande société internationale de tubes en acier et de trouver par ailleurs des positions complémentaires pour son avenir. En Lorraine, dès 1968, l'unité régionale découlera de la fusion de Cidélor, SMS et de la société Vindel. Cette dernière restait jusque-là en dehors des fusions par la plus grande capacité de ses usines. L'ensemble s'appellera d'abord Vindel-Cidélor et in fine Sacylor. Son pivot central sera la Solac, dont la création a été réalisée par Vindel pour l'implantation d'un train à bande 2 ans après celui d'Usineur. Cette installation fonctionne encore. Au début de l'année 70, la sidérurgie française hors aciers spéciaux repose donc sur 2 sociétés, Usineur et Sacylor. La fin du siècle sonnera le glas de cette structure régionale plusieurs fois centenaire. La troisième phase industrielle est la conséquence des limites de l'exploitation économique des gisements qui seront remplacés par ces minerais d'outre-mer. Un véritable bouleversement qui va conduire à l'établissement par les sociétés sidérurgiques de nouvelles usines destinées à assurer ailleurs la continuité de la production d'acier. Le site de Dunkerque est choisi en 1960. Ensuite, celui de Marseille, à Fos, environ 10 ans plus tard. Tout cela prendra du temps. Cependant, à partir de 1978, l'État prendra le contrôle des 2 sociétés dont la gestion sera unifiée et coordonnée. Pourquoi l'État ? Comment se fera la mutation industrielle ? La reconstruction, le développement industriel, le marché commun sont source d'investissements lourds, mais qui seraient supportables dans un marché libre et une conjoncture favorable. La superposition d'usines côtières, à créer sur du sable, devait entraîner un effort financier hors norme. En 1946, l'État n'ayant pas pris la mesure des conséquences financières de cette évolution, qui aurait pu justifier un plan spécial, a pratiqué une politique restrictive des prix de l'acier, complétée par une incitation à l'endettement. Politique que les sociétés ne remettront pas en cause. Une situation globale de passif s'est formée et n'a pu résister à la grande crise de 1974, provoquant dès 1978 une nationalisation de fait. Les décisions prises en 60 et 70 de construire des usines côtières engagèrent un effort de longue haleine et constituèrent le socle de la sidérurgie française du XXIe siècle. Elles eurent pour conséquence des difficultés économiques, financières et sociales très graves dans les régions privées de leur activité traditionnelle. Elles se sont traduites par un chômage important et elles ont remplacé les bruits des cités et des usines par un silence oppressant. Elles étaient inévitables. Après 20 années de transition difficile, la sidérurgie française, privatisée, sous le nom d'Usinor puis d'Arcelor, se tourne vers l'avenir. Elle va s'étendre à la sidérurgie belge et luxembourgeoise et s'intéresser à l'Espagne, puis au Brésil, par des participations dominantes, et ensuite au Canada, par la prise de Dofasco. À la fin de 2005, Arcelor était devenu un leader mondial et un pilier de la politique industrielle européenne. En 2006, les industriels indiens, le groupe Mittal, conscient de l'excellence des installations d'Arcelor, de sa technologie, de son orientation stratégique, de la grande compétitivité, ont pu, en l'absence d'une organisation défensive et dans le cadre de la réglementation en vigueur, en prendre le contrôle par la société Mittal Steel. Cet ensemble industriel a une capacité de production d'acier de l'ordre de 100 millions de tonnes et se trouve ainsi de loin le premier groupe sidérurgique mondial. Mais sa politique industrielle sera désormais déterminée par le groupe Mittal. La production d'acier en France reste concentrée, hors aciers spéciaux, à Dunkerque et à Marseille, Fos. La qualité, la diversité et la spécificité des aciers et des produits de ces aciéries sont le meilleur gage de leur avenir. Elles répondent en effet aussi bien à la demande des utilisateurs des pays industrialisés, avides de performance, qu'à celle des pays émergents à mesure qu'ils franchiront le stade des équipements primaires. Ceci permet de justifier l'hommage mérité par ceux qui ont créé, développé, modernisé cette industrie et l'ont adaptée aux données économiques pour conduire ensuite Arcelor au premier rang international.
C'était Jean Droulers sur l'histoire de la sidérurgie en France. Vous pouvez réécouter cette émission en libre téléchargement sur notre site canalacademy.com et découvrir les autres interventions sur la politique économique et industrielle de la France. Bonne journée et merci de votre attention.